Radio Barc, pour la deuxième partie de notre 35e, notre sommaire prévoit, Michel, que tu nous parles de la fragilisation de Carole Delga, alias la présidente de la région Occitanie, oui. socialiste, qui a une majorité un petit peu disparate, parler, oui. mais enfin plutôt socialiste, et la recomposition qui va se produire immanquablement, pour toi, va lui poser des problèmes.
Ah oui, forcément, parce que j'évoquais dans la chronique précédente la situation électorale sur Narbonne et sur le département de l'Aude. Mais dans la région Occitanie, c'est encore plus... c'est encore plus dramatique. C'est aussi dramatique, si je puis parler ainsi. Il n'y aura pas... Enfin, la probabilité qu'il n'y ait pas un seul député PS dans cette région est très élevée.
Elle existe,
ouais. Très élevée. Déjà, dans les deux plus gros départements de cette région, l'Hérault, il n'y en aura pas un, c'est sûr. Au mieux, entre guillemets, d'un point de vue de gauche, il y aura un élu France Insoumise. Au mieux.
Ouais. Hein,
tout le reste, les Républicains marchent, bon... Et dans le département de Haute-Garonne, le fief, si je puis dire, de Madame Delga, puisqu'elle est issue de la région toulousaine.
De Martres-Tolosane, je crois.
Idem. Aujourd'hui, au soir du premier tour, il ne reste plus qu'un seul candidat PS en situation de ballotage défavorable, l'ancien suppléant de Madame Delga sur son ancienne circonscription. Dont la probabilité qu'il soit battu lui aussi est très élevée.
Petite parenthèse, monsieur Portarieux
va être élu.
Et va être élu,
probablement. Oui,
il est en position.
Il est en position. Il est à 33, voilà, quelques. Bon,
il va en position d'être élu. Pour Macron.
Pour Macron. J'ouvre une parenthèse, les deux candidats de la République En Marche issus de l'agglo seront probablement élus. Je ferme la parenthèse. Oui. Pour en revenir à la région. De sorte que Madame Delga, qui s'était posé au lendemain, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-Claude, j'avais chroniqué sur le sujet, qui s'était positionné au lendemain de l'élection présidentielle perdue par son candidat Hamon et gagnée par Emmanuel Macron, s'était positionné sur une ligne très à gauche, dans le style « Monsieur Macron, c'est un homme de droite », point 1, et 2, devant ce résultat calamiteux pour nous, c'est-à-dire le fait qu'on n'est même pas au second tour présidentiel, je me pose, moi, Carole Delga, en grande fédératrice des forces militantes de gauche sur la région, et vous allez voir ce que vous allez voir aux législatives.
Et elle a pris d'immenses risques.
Elle a pris un risque énorme. Et elle s'est pris une claque, en fait, monumentale. Alors, les conséquences, Jean-Claude, c'est que, ça va pas tarder, c'est que, dans un contexte où, parmi ses propres alliés, faites à la région, notamment les radicaux de gauche, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le premier groupe de presse, le seul groupe de presse de la région, M. Baillet, qui, avant les présidentielles, avait souscrit un accord de désistement réciproque avec les socialistes aux législatives. Immédiatement après le second tour des présidentielles, revirement à droite, si je puis dire, ils se retrouvent tous macronistes.
D'une part. Et ça n'est pas tout.
Et deuxièmement, mais ça date de deux jours à peine.
C'est tout récent.
Deux jours à peine. Les radicaux de gauche et les radicaux de droite d'Ivaloisien se réunissent, mais alors pratiquement tous les jours, pour mettre en place une fusion du parti radical historique de l'époque, afin de constituer un pôle républicain et social, disent-ils, qui serait un apport supplémentaire à la majorité présidentielle.
Oui, donc cette reconstitution possible du parti radical, elle est quand même assez cocasse.
Elle est quand même cocasse, même temps.
Rappelons pour l'histoire que la scission avait eu lieu dans les années 70 au moment du programme commun de la gauche.
Exactement. Monsieur Fabre, le radical de gauche, ayant opté pour le programme commun de gouvernement, et puis les autres ayant voté finalement pour...
Manœuvre inverse.
Le problème, c'est que la majorité de Carole Delga à la région, elle est composée de quoi? Elle est composée d'écologistes tendance Mélenchon, M. Onesta, d'occitanistes purs et durs, etc. De front de gauche et de radicaux de gauche, mais si je puis dire, antérieurs aux événements actuels.
Qui vont devenir très vite, des radicaux libres.
Et sans eux, elle n'a pas de majorité. Et pour peu que certains conseillers régionaux des Républicains, il y en a quelques-uns de l'UDI, eux, macronables, si je puis dire.
Ou macro-compatibles.
Disent, mais tiens, pourquoi ne créerions-nous pas un groupe à la région La République en marche,
ben bien sûr,
elle n'a plus de majorité. Mmh. Elle n'a plus de majorité, elle se retrouve dans une position plus que difficile, problématique, coincée entre bon, les mélenchonistes d'une part et puis les républicains et un groupe qui s'est constitué. Alors je dis ça en parlant de la région, Jean-Claude, parce que je n'ai pas voulu faire encore un billet sur certaines agglomérations, notamment la nôtre.
Ben, bien entendu.
Car ce genre de processus, après tout, pourrait très bien se passer, d'autant que nous avons ici des radicaux qui pèsent, si je puis dire, même si en nombre et en voix, ils ne représentent pas, grand-chose.
Mais en prestige.
Mais en prestige, en notoriété et en position, et en position de pouvoir dans ce département et dans cette partie-là du territoire en particulier, oui, M. Condonou, M. Rocher.
Maire de Gruissan, maire de Coursan.
On va rajouter tous ceux qui ont donné leur parrainage à M. Macron tout de suite, M. Devic, le président du parc, Monsieur le maire de Saint-Marcel, monsieur le maire. Enfin, je n'ai pas au-delà, quoi. Hein. De sorte que ce que je développe comme idée, quoi, mais très, peut-être très trop futuriste, encore que pour la région, risque aussi de se produire, mais très concrètement, chez nous, et dans, je dirais, d'ici la fin de l'année, le temps que les congrès des partis battus, pour faire la dernière situation, se tiennent, et que les congrès des partis en voie de constitution, celui de Mélenchon et celui de la République en marche, se constituent. Voilà. Et on verra, de sorte que l'année 2018, Jean-Claude, va être très intéressante
de
point de vue politique.
Une année de bouleversement. Alors pour terminer, Michel, le théâtre de Narbonne, dont tu avais évoqué le déficit en expliquant un petit peu les raisons, il y a eu quelques coups de, coups de théâtre cette semaine. Ça a commencé par le maire de Narbonne.
Oui, il est monté sur scène, si je puis dire, le maire de Narbonne, en dévoilant une plaque toute neuve, faite à la gloire de M. Parot, dont on avait dit à l'époque.
Un ancien président dont on avait dit que c'était un homme qui méritait cet hommage, pourquoi pas.
Après avoir monté des marches dans un état catastrophique au risque de se blesser.
C'était pas la montée de Cannes.
Il est quand même arrivé, en haut des marches, si je puis dire.
Et il a fait,
Une annonce. Ouais. Il a dit, moi je veux récupérer le théâtre, je veux en faire un théâtre municipal, et vous allez voir, il sera bénéficiaire. Stupeur. Alors stupeur pourquoi? Parce que théâtre municipal, ça veut dire que on n'a pas de label scène nationale. Donc plus de subventions.
Oui, c'est tout à fait autre chose. C'est pas absurde a priori, mais c'est tout à fait autre chose.
Ça veut dire qu'on a plus de subventions de l'État, qui est lié à ce label. Mais on n'a plus de subventions de l'agglo, puisque on a récupéré le théâtre. Et on n'a plus de subventions du département, on n'a plus de subventions de la région, on n'a plus de subventions de personne. Donc le déficit aujourd'hui, il est de à peu près cumulé de 600 quelques 1000 euros, 600, j'arrondis, 700 000 euros. Mais attends, Jean-Claude, le déficit réel cumulé, c'est pas 700 000 euros. C'est 700 000 euros plus l'ensemble des subventions publiques qui, chaque année, sont allouées à la structure. 2 millions. 2 millions 7. Donc, M. Boulou dit, je récupère le théâtre municipal et je vais mettre 2 millions 7 sur la table. Attends.
Non, ou alors il faudrait revoir entièrement la programmation.
Certes.
C'est un tremblement de terre.
C'est un tremblement de terre. Mais faire 2 millions 7 de recettes de billetterie, Jean-Claude, je sais pas, je ne connais pas en France, partout ailleurs, de théâtre municipal capable d'une telle performance économique. Et d'ailleurs, si les performances en question étaient faisables, M. Mouly devrait nous dire aujourd'hui, mais pour tranquilliser les contribuables narbonnais, que le financement du fonctionnement de la salle multimodale, il sera entièrement financé. Il n'y aura aucun problème d'apport de subvention publique. Je ferme la parenthèse. Ouais.
Alors cela dit, réponse du berger à la bergère quasi immédiate.
Oui. Alors le problème, c'est que Bascou, lui, évidemment, il a réagi en disant, mais attendez, c'est pas possible. Donc, en sortant les arguments que je viens d'envoyer, sauf que il a oublié de rajouter le montant des subventions publiques pour définir le montant réel, effectivement, des apports financiers que devrait prendre la mairie. Mais ce qui n'a pas été dit non plus, alors je ne vais pas faire un cours de droit administratif, ce serait trop long, quoi. Hein, c'est que en plus, on peut pas récupérer un théâtre qui a été un équipement culturel qui a été transféré à l'agglo. Il n'y a que 4 situations juridiques possible pour l'envisager. Et aucune des 4 aujourd'hui n'est possible. Oui. Donc tout ça pour dire que c'est un enfumage classique. Oui. Hein. Je rappelle au passage aussi qu'il avait fait le même coup, Didier Mouly, avec le parc des Expos. Je veux récupérer le parc des...
Oui, apparemment, ça ne se fait
pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fera pas non plus. Donc c'est un enfumage classique. Par contre, Jean-Claude, il faut mettre au crédit de M. Didier Mouly, quand même qu'il a annoncé qu'à partir du mois de septembre, il allait enfin, oui, rénover les marches donc, de parvis qui sont de sa compétence.
Donc cette opération aura été bénéfique.
Encore que...
Pour les marches.
Oui, pour les marches.
Pour le parvis.
Mais si tu m'ajoutes un petit bémol en fait, à ce que je viens de dire, c'est que refaire l'ensemble, enfin le parvis et les marches en question, à l'ouverture du théâtre en septembre, c'est pas forcément non plus une bonne idée.
Bon, ben on verra.
Parce que bon, les spectateurs vont devoir se payer effectivement le chantier pour aller assister fait, à leur spectacle préféré.
Voilà, mais écoute, Michel, depuis le temps que tu le réclames, ça arrive.
Ah oui,
alors cesse de rouspéter.
Non, je rouspète pas, non, je dis, c'est bien, en fait, enfin, quoi. Hein. Mais alors, bon, faites vite, hein, pour éviter, bon, en fait, aux futurs clients du théâtre de se casser une cheville, fait, de se blesser en traversant un chantier qui forcément sera un peu long.
Il nous tarde d'aller admirer le nouveau parvis. Et après quoi, on marque une pause.